Spinoza, Pensée métaphysique, partie 2, chapitre 4. De l'immutabilité de Dieu. Ce qu'est le changement et ce qu'est la transformation. Par changement, nous entendons en cet endroit toute variation pouvant se produire dans un sujet quelconque, l'essence même du sujet gardant son intégrité. Bien qu'on prenne communément aussi le mot, dans un sens plus large, pour signifier la corruption des choses. Non une corruption absolue, mais une corruption qui enveloppe en même temps une génération subséquente. Comme quand nous disons que la tourbe est changée en cendre, que les hommes sont changés en bêtes. Mais les philosophes usent pour cette désignation d'un autre mot encore, à savoir transformation. Pour nous, ici, nous parlons seulement de ce changement dans lequel il n'y a aucune transformation du sujet, comme quand nous disons « Pierre a changé de couleur, de mœurs, etc. » Aucune transformation n'a lieu en Dieu. Il faut voir maintenant si de tels changements ont lieu en Dieu, car il est inutile de rien dire de la transformation, puisque nous avons prouvé que Dieu existe nécessairement, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas cesser d'être ou se transformer en un autre Dieu. Car alors, et il cesserait d'être, et il y aurait plusieurs dieux, et nous avons montré que ce sont là deux absurdités. Quelles sont les causes du changement? Pour faire entendre plus distinctement ce qui reste à dire ici, il est à considérer que tout changement provient ou de causes externes, avec ou sans la volonté du sujet, ou d'une cause interne, et par le choix même du sujet. Par exemple, noircir, être malade, croître et autres choses semblables proviennent dans l'homme de causes externes. Contre la volonté du sujet ou, au contraire, selon son désir. Mais vouloir se promener, se montrer en colère, etc., proviennent de causes internes. Dieu n'est pas changé par un autre être. Les premiers changements qui dépendent de causes externes n'ont point de place en Dieu, car il est seule cause de toute chose et n'est patient vis-à-vis de personne. En outre, aucune chose créée n'a en elle-même aucune force d'exister, et par suite, encore moins a-t-elle la force d'exercer une action en dehors d'elle-même ou sur sa propre cause. Et si l'on trouve souvent dans l'Écriture sainte que Dieu a eu de la colère ou de la tristesse à cause des péchés des hommes et autres choses semblables, c'est qu'on a pris les faits pour la cause. Comme quand nous disons que le soleil est plus fort et plus haut en été qu'en hiver, bien qu'il n'ait pas changé de place ni acquis de nouvelles forces. Et que cela est même souvent enseigné par l'Écriture sainte, on peut le voir dans Isaïe. Il dit en effet, chapitre 69, verset 2, adressant au peuple des reproches, « Vos iniquités ont fait séparation de vous et votre Dieu. » Dieu n'est pas changé non plus par lui-même. Continuons donc et demandons-nous s'il peut y avoir en Dieu un changement venant de Dieu. Or, nous n'accordons pas que cela puisse être, et même nous le nions absolument. Car tout changement qui dépend de la volonté du sujet se fait afin de rendre son état meilleur, ce qui ne peut avoir lieu dans l'être souverainement parfait. De plus, un changement de cette sorte ne se fait que pour éviter quelque dommage ou en vue d'acquérir quelque bien qui manque. Or, l'un et l'autre ne peuvent avoir lieu en Dieu. D'où nous concluons que Dieu est un être immuable. On notera que j'ai omis ici à dessein les divisions ordinaires du changement, bien que nous les ayons aussi embrassées en quelque manière. Il n'était pas nécessaire de montrer, pour chacune d'elles à part, qu'elle ne se trouve pas en Dieu, puisque nous avons démontré, dans la proposition 16, partie 1, que Dieu est incorporel et que ses divisions ordinaires comprennent les changements de la matière seulement. Chapitre 5. De la simplicité de Dieu. Il y a trois sortes de distinctions entre les choses. La réelle, la modale, la distinction de raison. Passons à la simplicité de Dieu. Pour bien entendre cet attribut, il faut se rappeler ce que Descartes a indiqué dans les Principes de philosophie, partie 1, articles 48 et 49, à savoir qu'il n'y a rien dans la nature des choses en dehors des substances et de leurs modes, d'où est déduite cette triple distinction, articles 60, 61 et 62, savoir la réelle, la modale et la distinction de raison. On dit qu'il y a distinction réelle entre deux substances, qu'elles soient d'attributs différents ou qu'elles aient même attributs, comme par exemple la pensée et l'étendue ou les parties de la matière. Et cette distinction se reconnaît à ce que chacune d'elles peut être conçue et par conséquent exister sans le secours de l'autre. Pour la distinction modale, Descartes montre qu'elle est double. D'une part, celle qui existe entre un mode d'une substance et la substance elle-même, d'autre part, celle qui existe entre deux modes d'une seule et même substance. Et nous reconnaissons cette dernière à ce que, pouvant être conçus sans le secours l'un de l'autre, les deux modes ne peuvent être conçus sans le secours de la substance dont ils sont des modes. Quant à la première sorte de distinction modale, on la reconnaît à ce que la substance pouvant être conçue sans son mode, le mode ne peut l'être sans la substance. Une distinction de raison, enfin, existe entre une substance et son attribut, comme quand la durée est distinguée de l'étendue. Et cette distinction se connaît à ce que telle substance ne peut être conçue sans tel attribut. D'où provient toute combinaison et combien il y a de sortes de combinaisons. De ces trois sortes de distinctions provient toute combinaison. La première combinaison est celle de deux ou plusieurs substances de même attribut. Comme toute combinaison réunissant deux ou plusieurs corps ou d'attributs différents comme l'homme. La deuxième combinaison se forme par l'union de divers modes. La troisième, enfin, ne se forme pas, mais est seulement conçue par la raison comme se formant, pour faire mieux entendre une chose. Les choses qui ne sont point composées de l'une des deux premières façons doivent être dites simples. Dieu est un être parfaitement simple. Il faut donc montrer que Dieu n'est pas quelque chose de composé, d'où nous pourrons facilement conclure qu'il est un être parfaitement simple, et cela sera facile à faire. Comme il est clair de soi en effet que les parties composantes sont antérieures au moins par nature à la chose composée, les substances, par l'assemblage et l'union desquelles Dieu est composé, seront par nature antérieures à Dieu lui-même. Et ensuite, comme ces substances doivent se distinguer réellement les unes des autres, chacune d'elles devra nécessairement aussi pouvoir exister par elle-même et sans le secours des autres. Et ainsi, comme nous venons de le dire, il pourrait y avoir autant de dieux qu'il y a de substances desquelles on suppose Dieu composé. Car chacune pouvant exister par elle-même, devra exister d'elle-même, et par suite aura aussi la force de se donner toutes les perfections que nous avons montrées qui sont en Dieu, etc. Comme nous l'avons déjà expliqué amplement dans la proposition 7, partie 1, où nous avons démontré l'existence de Dieu. Comme il ne se peut rien dire de plus absurde, nous concluons que Dieu n'est pas composé d'un assemblage et d'une union de substances. Qu'il n'y ait pas en Dieu de combinaison de divers modes, cela s'impose par cela seul qu'il n'y a pas en Dieu de mode, car les modes naissent d'une altération de la substance. Voir principe, partie 1, article 56. Enfin, si l'on veut forger une autre combinaison, formée de l'essence des choses et de leur existence, nous n'y contredisons nullement. Mais que l'on se rappelle que nous l'avons suffisamment démontré, ces deux choses ne se distinguent pas en Dieu. Les attributs de Dieu n'ont entre eux qu'une distinction de raison. Et de là, nous pouvons conclure que toutes les distinctions que nous faisons entre les attributs de Dieu ne sont que de raison, et qu'ils ne se distinguent pas réellement entre eux. Entendez, des distinctions de raison comme celles que j'ai citées un peu plus haut, et qui se reconnaissent à ce que telle substance ne peut être sans tel attribut. D'où nous concluons que Dieu est un être parfaitement simple. Nous n'avons cure d'ailleurs du fatras des distinctions des péripatéticiens. Passons donc à la vie de Dieu. Chapitre 6. De la vie de Dieu. Ce que les philosophes entendent communément par vie. Pour bien faire connaître cet attribut de Dieu, à savoir la vie, il est nécessaire que nous expliquions d'une manière générale ce qui est désigné en chaque chose par la vie. Et en premier lieu, nous examinerons l'opinion des péripatéticiens. Ces philosophes entendent par vie la persistance de l'âme nutritive avec la chaleur. Voir Aristote, Traité de la respiration, livre 1, chapitre 8. Et comme ils ont forgé trois âmes, savoir la végétative, la sensitive et la pensante, qu'ils attribuent seulement aux plantes, aux animaux et aux hommes, il s'ensuit, comme eux-mêmes l'avouent, que les autres êtres sont privés de vie. Et cependant, ils n'osaient pas dire que les esprits et Dieu étaient sans vie. Ils craignaient peut-être de tomber dans ce qui est le contraire de la vie, et que si les esprits et Dieu étaient sans vie, ils ne fussent morts. C'est pourquoi Aristote, dans la Métaphysique, livre 11, chapitre 8, donne encore une autre définition de la vie, particulière aux esprits, savoir, la vie est l'acte de l'entendement. Et en ce sens, il attribue la vie à Dieu qui perçoit par l'entendement et est acte pur. Nous ne nous fatiguerons guère à réfuter ces opinions, car pour ce qui concerne les trois âmes attribuées aux plantes, aux animaux et aux hommes, nous avons assez démontré qu'elles ne sont que des fictions, puisque nous avons fait voir qu'il n'y a rien dans la matière, sinon des assemblages et des opérations mécaniques. Quant à la vie de Dieu, j'ignore pourquoi elle est, dans Aristote, plutôt l'acte de l'entendement que l'acte de la volonté ou d'autres semblables. N'attendant toutefois aucune réponse, je passe à l'explication que j'ai promise, savoir ce qu'est la vie. À quelle chose la vie peut être attribuée? bien que ce mot soit souvent pris par métaphore pour signifier les mœurs d'un homme, nous nous contenterons d'expliquer brièvement ce qu'il désigne philosophiquement. Il faut noter seulement que si la vie doit être attribuée aussi aux choses corporelles, rien ne sera sans vie. Si elle l'est seulement aux êtres, où une âme est unie au corps, elle devra être attribuée seulement aux hommes et peut-être aux animaux, mais non aux esprits ni à Dieu. Comme cependant le mot « vie » s'étend communément davantage, il n'est pas douteux qu'il ne faille attribuer la vie même aux choses corporelles, non unies à des esprits et à des esprits séparés du corps. Ce qu'est la vie et ce qu'elle est en Dieu. Nous entendons donc par vie la force par laquelle les choses persévèrent dans leur être. Et comme cette force est distincte des choses elles-mêmes, nous disons proprement que les choses elles-mêmes ont de la vie. Mais la force par laquelle Dieu persévère dans son être n'est autre chose que son essence. Ceux-là parlent donc très bien qui disent que Dieu est la vie. Il ne manque pas de théologiens qui comprennent que c'est pour cette raison que Dieu est la vie et ne se distingue pas de la vie, que les Juifs, quand ils juraient, disaient « par Dieu vivant » et non « par la vie de Dieu », comme Joseph, jurant par la vie de Pharaon, disait « par la vie de Pharaon ».